Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de La Good News. Je suis votre co-animatrice Naomi.
Et je suis votre co-animateur Alain.
On espère que vous allez bien, que vos débuts de vacances se passent bien, que la vie est chouette. Cher Alain, pourrais-tu nous partager aujourd'hui ta good news, s'il te plaît?
La good news que je voudrais partager avec vous, c'est qu'en fait, hier soir, j'étais juste à côté de Thomas, notre petit dernier. Et en fait, j'étais derrière lui et en fait, il est plus grand que moi.
Ouais,
voilà, ça c'est la good news, c'est qu'il est plus grand que moi. Et donc, je suis le plus petit des hommes dans la maison. C'est une good news. Ils ont grandi, mes enfants.
C'est une good news, ouais, pour nous plus que toi, j'ai l'impression. Mais c'est bien de prendre les choses de manière positive.
Non, mais ça va. Voilà, il arrivait à ma taille depuis pratiquement un an, donc ok. Mais en fait, hier soir, j'étais derrière lui, et ben en fait, il est plus grand que moi, et j'étais là. Voilà.
C'est la masse capillaire qui fait peut-être donner cette impression.
Bah non, en fait, c'était les épaules.
Ah ouais, ça, j'avoue que là, tu peux pas trop tricher.
Et quelle est ta good news de la semaine?
Ma good news, bah, c'est la good news. Grégory a rendu sa thèse, et donc on attendait les résultats. Et les résultats d'une thèse, ça peut aussi bien venir donc, à partir du 1er juillet, donc la date qu'ils avaient donnée, et ça peut aussi bien venir le 31 août.
D'accord.
Et donc, étant donné que notre nom de famille commence par un V... Si on partait, exactement, si on partait au niveau de l'ordre alphabétique, on n'aurait pas eu notre réponse avant un petit moment. Et hier, il a eu la réponse, il a réussi.
Ouais, c'est
sa
trop bien.
Sa thèse a été approuvée, c'est fait. C'était un petit cap à passer et le cap est passé. Et puis maintenant, bah, y a des nouvelles aventures qui vont commencer doucement. Mais pour l'instant, on profite des vacances parce que ça fait du bien aussi de profiter un petit peu. Mais donc ça, c'est la good news.
C'est une très bonne good news.
Félicitations, Grégory.
Ouais, félicitations. Très, très chouette.
Quelle est votre good news à vous? Est-ce que tu voudrais introduire le sujet du jour?
Quand tu l'as envoyé, en fait, tu avais marqué il y aura besoin d'un peu de recherche.
Oui.
C'est ça. Et en fait, oui, il y avait un peu de recherche à faire, je dois dire, parce que je ne le connaissais pas. J'ai trouvé intéressant le fait que ça soit pas simplement maintenant... un effet de mode d'en parler, mais que c'est vraisemblablement plus commun que ce que l'on pense. Par contre, je pense qu'on l'a tous à un degré plus ou moins élevé, il me semble. Après, c'est pas grave, hein, ok, c'est juste quelque chose à apprendre et à connaître. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le syndrome de l'imposteur. Ah non, je me suis trompé de sujet, pardon, c'est pas le... Non, c'est une blague.
Waouh.
Quel humour.
J'aurais dû te lancer dans une autre carrière, disons.
C'est ma question, mais pourquoi est-ce que tu avais choisi ce sujet?
Alors, j'ai choisi ce sujet parce que, comme tu l'as très bien dit dans ton introduction, c'est un sujet de mode ces temps-ci.
J'ai l'impression.
C'est sur les réseaux et c'est pas une mauvaise chose que ce soit à la mode du tout. Parce que pour moi, ça me fait un peu penser à la période où, au tout début sur les réseaux, on commençait à parler de dépression et de santé mentale. Quand on parlait de ça au début, c'était pas une question « Ah là là, c'est à la mode, parlons de ça, et comme ça, bah, tu peux avoir une carrière en parlant de ceci sur les réseaux ». J'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus sur les réseaux sociaux, à la télé, peu importe, ça devient un terme courant, comme l'a été la dépression au tout début, comme l'a été l'anxiété à un certain moment, pour que les gens soient, comme le dit Jean-Claude Van Damme,
«
Eh ouais !»
Ouah, t'as vu ? Oh, t'as vu ?
C'est comment ? C'est normal, et il y a un moyen pour que ça aille. Et je me souviens, bah, quand moi j'ai commencé à faire de la dépression, c'était le moment où sur les réseaux sociaux on commençait à en parler, la porte était un peu plus ouverte à en discuter, c'était pas non plus le truc où t'en discutais vraiment, mais c'était un peu plus ouvert. Mais c'était des moyens qui te permettaient de comprendre ce que c'était, comment est-ce que tu pouvais guérir ça, et aussi il y avait ce sentiment où tu disais, bon... Bah, je suis pas toute seule alors à vivre ça. Imposteur, bah, c'est un peu ça. Sauf que bah, avec les réseaux sociaux qui ont carrément évolué depuis 2014, on en parle beaucoup plus. Et donc effectivement, il y aura toujours ce moment effet de mode. Mais en même temps,
il y a une réalité derrière.
Il y a une vraie réalité derrière. Peut-être que des gens s'en feront en business, j'en sais pas. Parce qu'on va pas se mentir non plus là-dessus. La dépression, tout ce qui est santé mentale, il y a des gens qui s'en servent uniquement pour en faire leur business. Il y a des gens qui vont utiliser tout ce qui est body positive ou environnement et clean et tout ce que vous voulez pour en faire un business.
Dans leur stratégie.
Et c'est une stratégie marketing comme une autre. Moi, j'ai des noms, je ne vais pas vous les donner, mais vous le verrez très bien sur les réseaux sociaux que tu as des gens qui ne se servent que de ça pour sortir du lot, pour qu'on parle d'eux, c'est un peu ce qu'on parlait la semaine dernière sur le fait d'être le centre de l'attention. Exact. Par contre, c'est une réalité.
En étudiant le sujet, je me suis rendu compte qu'il y avait des points, des éléments, des symptômes, mm-hmm. Choisissez ce que vous voulez. Hein. Je me suis rendu compte qu'il y avait certaines choses que je faisais ou auxquelles je pensais qui ressemblaient fort à ça. C'est que quelques éléments.
Déjà, dans un premier temps, dans les études que j'ai pu faire, il est marqué que 75% de la population vit ce qu'est le syndrome de l'imposteur. 75%, pense, ouais. C'est immense.
C'est 350. Voilà. On vit tous à un moment ou à un autre. Oui. Pas forcément dans sa totalité, dans sa globalité, avec tous les éléments que ça reprend. Mais, à mon sens, on le vit tous à un moment donné, parce que ça fait aussi partie de notre transformation lorsqu'on est enfant, on devient ado, et puis on devient adulte. Adulte, le mot est galvaudé, mais voilà quoi.
On devient
quoi.
Grand.
Ouais, on devient plus âgé.
Bah, dans sa définition... Parce que j'ai trouvé plusieurs définitions différentes, donc je vais juste l'envoyer en un bloc, comme ça vous l'avez. Donc le syndrome de l'imposteur est un sentiment auto-entretenu d'incompétence et de doute en sa personne et ses compétences, et qui persiste malgré les succès scolaires et professionnels. Mmh. Donc ça veut dire que ça n'a rien à voir en fait avec si t'as un diplôme, t'as plus le syndrome de l'imposteur, non. Ou t'es quelqu'un de bien, t'as plein de qualités, t'as plein de talents, t'as plus le syndrome de l'imposteur, ça va arriver, peu importe ce que tu as, qui tu es, ce que tu gagnes.
Exactement.
C'est un conflit entre la perception que l'on se fait des autres et la façon dont on se perçoit soi-même. Mmh. Et j'ai bien aimé le mot « conflit ».
Ouais, ouais.
Parce que c'est vrai que quand un syndrome de l'imposteur, t'es en conflit permanent avec toi-même.
Ouais,
c'est vraiment, tu te bats avec toi-même. Ouais, ouais. Dans ces définitions-là, on peut entrevoir les mots comparaison,
ouais, voilà, tout à fait.
Confiance en soi et doute. Mm-hmm. C'est une tendance psychologique à la peur et à la remise en question. Et c'est un sentiment de ne pas mériter la place que nous occupons. Mm-hmm. Si jamais vous ne savez pas ce que c'est le syndrome de l'imposteur, j'espère l'avoir résumé le mieux possible. Ouais, le syndrome de l'imposteur, c'est tout ceci. Alors, c'est pas grave, hein, vous n'êtes pas, ce n'est pas un virus, grave. Vous n'allez pas être contaminé, vous n'allez pas contaminer les autres, ce n'est pas grave. Comme n'importe quoi, c'est quelque chose qui se travaille et qui cède. C'est comme pour moi avec la dépression. Mm-hmm. Quand j'ai commencé à aller voir une psy, quand j'avais 16 ans, elle m'a très bien dit tout de suite, parce que j'ai été diagnostiquée très vite avec je suis dépressive et ça va être c'est pas juste je suis dépressive maintenant, c'est quelque chose qui va continuer avec le temps. Elle me l'a bien dit, c'est, là on va guérir du gros bloc que je dois guérir, mais par contre je vais avoir des saisons, des moments où ça va revenir. Et elle m'avait dit, si jamais il y a un souci, vous revenez me voir, mais n'oubliez pas ce qu'on a fait pour que vous alliez mieux. Bah, je crois que le syndrome de l'imposteur, c'est ça aussi.
Ouais,
il y a peut-être des moments où tu te dis, ah, mais en fait, c'est bon, je l'ai évacué, j'ai plus ça. Mais en fait, c'est toujours un travail que tu dois faire sur toi-même.
Et ça ne revient pas parce qu'on a fait tel truc ou telle chose, comme la dépression. J'en parlais il y a 2 semaines avec quelqu'un qui a eu une dépression pour la première fois. Il y a des fois où tu sais pas pourquoi. Enfin, en vrai, moi, je sais pas pourquoi.
Ouais.
Par contre, ça me tombe dessus.
Ouais.
Et donc, je dois faire attention à remonter la baraque, quoi. Ce n'est pas quelque chose qui est guéri et après, hop là, fini, terminé. On doit apprendre à maîtriser et à apprivoiser. Et puis, on avance avec. Faut pas en faire une fatalité non plus. Enfin, faut essayer.
Non, c'est ça.
Mais il faut reconnaître. C'est pour ça que je trouve intéressant d'en parler, en fait, du syndrome de l'imposteur, parce que ça peut aider quelqu'un à dire, tiens, ok,
c'est
moi
ça,
j'ai quelques éléments, alors peut-être que je peux faire quelque chose avec. Faut pas juste dire, bah, c'est la fatalité, c'est la vie.
Les quelques symptômes, justement, qui peuvent aider peut-être à analyser ça. Encore une fois, on n'est pas médecin, on n'est pas psy, on n'est rien du tout.
On
parle de ce qu'on connaît, de ce qu'on a pu voir, et on va... Enfin, moi, je parle de généralité, de trucs que moi, je peux reconnaître là-dedans. Mais les quelques éléments qui peuvent aider à reconnaître que, justement, on a ce syndrome de l'imposteur, c'est l'anxiété, le perfectionnisme, le doute de soi, la peur de l'échec. C'est le fait que y a tellement de voix dans la tête que t'arrives plus à gérer. Là-dedans, t'as l'anxiété qui se met, t'as la peur qui se met, t'as les doutes qui se mettent. En fait, il y a tout qui se mélange. Bah, t'as l'impression que la seule solution, c'est de te retirer. Et dire, ok, c'est bon, voilà. Et enfin, tu sais, t'as jamais l'impression d'être à ta place. Et c'est pour ça que c'est syndrome de l'imposteur. Parce que t'as toujours l'impression qu'en fait, t'es une
tu
fraude.
Tu piques la place à quelqu'un.
C'est ça, t'es une fraude et tu piques la place à quelqu'un et que les gens ils vont découvrir que t'es une fraude, alors que c'est pas le cas.
Non, en fait, c'est pas le cas.
C'est aussi le pourquoi ça s'appelle syndrome de l'imposteur.
Ouais, quand on est entrepreneur, on a toujours une idée de créer quelque chose et de le faire. Et quand on le fait, on a l'impression que quelqu'un d'autre peut faire aussi bien, voire mieux. Et c'est parce qu'il a cette partie de comparaison. Et dans le monde du tech, on compare davantage avec les autres. pas qui l'on est, mais au moins ce que l'on fait. Et puis on aurait l'impression qu'on ne mérite pas tout ça ou tout ça. Il y a beaucoup de choses qui viennent de la confiance en soi et le fait de ne pas avoir forcément confiance de réussir. Du compte, quand on fait le syndrome de l'imposteur, je n'avais pas tous ces symptômes-là. J'en avais certaines parties. Mais on a tous, quelque part, un peu la trouille de faire un essai de quelque chose. En réalité, il faut juste essayer, quoi.
Ouais.
Et puis après, pas comparer avec ce que les autres font. Ça, ouais. C'est mon avis, hein, c'est pas un conseil. C'est juste mon avis. Ne comparons pas ce qu'on fait. Faisons. Bah, c'est pour ça que j'aime bien que ça colle avec le thème de la créativité que tu
voulais
développer.
Oui, mais c'est tout à fait ça.
Parce qu'en fait, à partir du moment où on va comparer ce qu'on fait avec les autres, alors oui, il ne faut pas faire de la daube, hein, ok. Mais quand on va vouloir comparer ce que l'on fait avec les autres, c'est rarement pour s'élever. C'est toujours pour dire ah non, ça c'est pas assez bien, ça c'est pas assez beau, ça c'est pas bien fait. Il me semble qu'il y a une mesure en tout. Il faut être mesuré là-dedans.
Je pense que n'importe qui de créatif, de sensé et logique,
et de sensé,
va forcément l'avoir. Ouais. Parce que tu vas toujours te dire... Enfin, moi, je connais quelqu'un qui chante extrêmement bien. Et qui, à chaque fois, je lui dis... Elle me dit, ouais, mais tu vois, il y a cette personne qui chante mieux. Mais qu'est-ce que je m'en fous que cette personne chante mieux? Je viens de te dire que tu chantais bien. Et d'un autre côté... Quand moi, on vient me dire quelque chose sur « Ah, j'ai bien aimé ta dernière vidéo, j'adore ce que tu fais sur les réseaux, franchement, j'adore tes boucles d'oreilles, ça te va super bien. » Je suis une professionnelle pour éviter le sujet. Oui. Je vais être là « Merci !»« Oh, mais regarde, là-bas, il y a je sais pas quoi. » Et en fait, je veux pas être, encore une fois, le centre de l'attention dont on parlait la semaine dernière, mais aussi parce que je me dis « Mais les gens, en fait, ils regardent trop ce que je fais, ils vont voir tout ce que je fais pas bien. » Je me vends peut-être mal, mais donc, je fais des bijoux. Tout ce que je garde moi-même, tout ce que je fais moi-même et que je garde pour moi, c'est les premiers que j'ai ratés. Donc ça veut dire que mes boucles d'oreilles que je porte là, celles que vous allez acheter, elles seront meilleures parce que du coup, tu vois, c'est ce que j'ai, c'est les ratés. Et je me dis, si les gens, ils font trop attention, ils vont voir que c'est pas bien, mais c'est parce que c'est les ratés. Et donc, enfin bref, tu commences un peu à psychoter. T'as un mélange syndrome d'imposteur avec être le centre de l'attention dont on parlait la semaine dernière.
C'est un savant équilibre. Ouais.
Mais donc, moi, la question que j'avais, c'est comment est-ce que t'arrêtes avec ce syndrome de l'imposteur? Quand t'as tellement de voix dans la tête, comment est-ce que tu arrêtes? Et j'ai fait des recherches, parce que, comme je l'ai dit, je suis pas médecin, je ne sais pas.
Oui.
Et bien évidemment, je me suis basée sur un TED Talk, parce que ce serait pas marrant sinon. Je me suis basée sur celui de Lou Solomon. Il disait que ça pouvait venir, déjà, le syndrome de l'imposteur, des critiques constantes.
Oui, alors ça... C'est intéressant parce que je le remarque bien.
Ouais. Et donc, ça peut venir aussi bien du foyer dans lequel on a grandi, de l'environnement dans lequel on a grandi, le fait que tout le monde nous dit « c'est pas si bien, c'est pas si bien, c'est pas si bien ». Mais il y a aussi des gens, et je vais pas mentir là-dessus, j'ai bien vécu mon enfance. J'ai pas eu une famille où on m'a dit « ah non, tu fais pas bien hein. ». Au contraire, on m'a poussé à faire des trucs, et même si je voulais rien faire, on me poussait pas, mais j'étais là. Mais n'empêche que j'ai aussi ces voix continuelles dans ma tête qui me disent que je suis pas assez bien, que je fais pas assez bien. Comment est-ce qu'on peut essayer de...
Ouais, de contrer...
guérir ça. Lou Solomon, elle compare justement ces voix qu'on a dans notre tête à une personne. C'est comme si on créait quelqu'un dans notre cerveau.
Okay.
Et elle le décrit comme « It's like having a crappy best friend in your head ». C'est comme ça qu'elle le décrit. C'est comme si t'avais une meilleure amie un peu...
crappy.
Un gros caca, quoi, dans ta tête. Et que, elle est toujours là à faire des commentaires et à juger ce que tu fais. Un des moyens de contrer ceci... et de reconnaître la voix de cette crappy best friend que tu as dans ta tête.
Parce que tu viens d'avoir une voix Christian, c'est ça?
Je suis sûre que t'as parlé comme ça. Une fois que t'as reconnu la voix, tu sais ce que c'est, tu sais d'où ça vient, tu sais qui elle est.
Ouais, c'est vrai. Ouais.
Tu sais quelle source.
C'est
une des autres solutions qu'elle donnait, c'est une fois que t'as reconnu cette voix, t'en inventes une autre qui justement contre ce qu'elle dit. Et c'est un peu ce qu'on disait la semaine dernière, tu dois identifier des sources.
Ouais.
D'où est-ce que ça vient? D'où est-ce que ces paroles viennent? Pourquoi est-ce que ça vient? Ça, tu t'en fiches. Mais d'où est-ce que ça vient? Ça peut résoudre quelques petits trucs.
Ça veut dire, en tout cas, moi, je l'interprète comme ça, ce que tu viens de dire, par le fait qu'on ne peut pas laisser ces voix prendre de la place en nous. C'est à nous de le décider.
Oui.
Alors, je ne dis pas que c'est simple, hein, mais je dis juste, en gros, ce que je comprends, c'est que c'est à moi de décider de ne pas laisser ce genre de choses agir. C'est vrai que depuis ado, j'avais pris l'habitude, encore une fois, de sélectionner... Alors évidemment, il y avait beaucoup moins de sources d'informations maintenant. Mais j'avais pris l'habitude de sélectionner ce que je voulais, moi. Et j'ai toujours pris l'habitude que lorsque j'avais des pensées pas forcément positives, je remplissais mon temps par de l'énergie positive. Soit par de la musique, parce que c'est ce que je faisais beaucoup, beaucoup, ou alors par des activités sportives. Ma journée faisait 24 heures, et que si je remplissais ma journée de choses bonnes, ça allait mieux. Mm-hmm. Je ne dis pas que je chassais au loin les gros nuages, mais au moins ça me permettait de faire face à ce que je ne voulais pas.
Il y a un exemple qu'on m'a souvent donné, et qui, encore une fois, est très présent sur les réseaux sociaux, je le vois de plus en plus maintenant. Comment est-ce que tu parlerais à quelqu'un que tu aimes ? Mm-hmm. Comment est-ce que tu encouragerais quelqu'un que tu aimes ? Même si cette personne, tu vois, elle te vient de te raconter sa journée de travail en disant « J'ai fait que des gaffes aujourd'hui, c'était horrible. » Tu vas lui dire quoi ? « Ouais, franchement, t'es nul, démissionne, ils vont te virer. » Bien sûr que non. Tu vas lui dire « Mais c'est pas grave, tu feras mieux demain. » Et en fait, il faut que dans notre propre tête, on puisse se parler comme si on parlait à quelqu'un qu'on aime. Et c'est là ça rejoint encore une fois cette idée de confiance en soi, où tu dis, ben, une fois que t'as compris la thématique, le schéma de comment est-ce qu'il faut faire, par contre, c'est une bataille constante. Hein.
Oui, ouais, c'est vrai.
Et d'où le conflit de la définition.
Ouais, non, tout à fait, c'est ce que j'aimais, mais tu parlais tout à l'heure quand tu disais, quand les gens viennent te féliciter ou te dire que c'est un truc que tu fais bien, et c'est vrai que j'avais le même réflexe que toi, c'est-à-dire de dire ah mais non c'est pas grave, puis j'essayais de détourner la chose,
voilà, un de spotlight, composer question, je veux
mais
pas,
mais en fait ce que désolé, j'ai fait depuis encore une fois depuis mon adolescence, ce que j'ai fait, c'est que je me suis conditionné à répondre, parce que je me suis rendu compte que lorsque moi j'allais féliciter quelqu'un pour quelque chose qui m'avait plu, qui m'avait touché, je le faisais d'un cœur sincère. Alors par contre, ça c'est moi, s'il y a un truc qui me plaît pas, je vais pas vous dire que c'est bien. Je suis désolé, je ne file pas des choses gratos.
Non, mais après, il faut être honnête. Hein.
Voilà, alors c'est là où il y a cette partie-là. Moi, je ne peux pas aller te dire c'était très bien ce que tu as fait quand c'était une daube. Je ne le fais pas. Par contre, je t'encourage. Je dis ok, voilà, machin. Mais je ne vais pas te dire.
Mais tu ne vas pas non plus dire c'était une daube.
Non, je ne vais pas dire c'était une daube. Voilà, où... Non, j'ai... Oui.
Je pense aussi que bah, y a des choses qui vont peut-être te toucher toi, mais qui toucheront pas d'autres gens, et l'inverse,
ouais, bien sûr, ouais.
Y a des choses qui toucheront d'autres gens et pas toi.
Ouais,
et donc, bah, je vais pas être moi là à juger en disant franchement, c'était très bof.
Non,
très bof. Hein.
Et
moi,
que
si
ça soit bien
fait,
ou pas,
go.
C'est juste que toi, tu l'apprécies moins. Mm-hmm. Et donc, c'est pour ça, mais je vais pas mentir sur le truc en disant ouais, c'était très bien ton truc, alors que j'ai pensé que c'était pas bien pour moi. Mais de l'autre côté, je me suis rendu compte que lorsque quelqu'un vient me dire que c'est bien, alors je ne juge pas l'intention qu'il y a derrière. Par contre, je me suis conditionné à répondre. Parce que si tu réponds « Ah ben non, c'est pas grave, machin, je me mets de côté », en réalité, la personne peut sentir « Ben non, moi j'ai bien aimé
».
Et donc, quand quelqu'un vient me dire quelque chose comme ça, maintenant je dis « Merci oui, », que je reconnais que la personne l'a fait et je l'apprécie, mais je me suis conditionné pour ne pas répondre en disant « Oui, mais non, nanana ». Je me tais
pareil.
Simplement, je mets un point et puis c'est tout.
Mais moi, c'était un gros travail sur moi aussi.
C'est un gros travail,
que
oui, je le fais
le
toujours.
Truc, c'est que t'as beaucoup de gens qui considéraient ça comme étant de la fausse modestie.
Oui,
et je dis
ouais,
non,
exact.
Mais toi, t'as pas vu la galère que ça a été quand ma machine à coudre a bugué et que j'ai passé 3 heures à faire ça. Mais t'as presque envie de leur raconter, mais ils s'en foutent.
Oui,
parce
qu'eux,
ils veulent juste voir le résultat. Mais c'est vrai que, justement, quand quelqu'un te donne un compliment, quand quelqu'un te machin, t'as juste à répondre merci, moi dans ma tête, j'ai envie de dire non, mais ça allait pas, ça t'as pas vu, ça machin,
Ça je l'ai appris en fait avec les cadeaux, c'est tout bête, mais quand quelqu'un t'offre un cadeau à ton anniversaire ou à Noël ou dans une autre circonstance...
Repart des anniversaires.
Pardon, mais quand on t'offre un cadeau, avant j'avais toujours l'habitude de dire ah mais fallait pas, machin. Ouais. Et puis je me suis rendu compte que l'expression était bizarroïde en soi, parce qu'en fait oui il fallait parce que ça te fait plaisir de recevoir le cadeau. La personne qui l'a acheté ou qui l'a fabriqué, d'habitude, elle l'a fait avec grand cœur et grande attention. Donc, là, je trouvais déplacé de dire « bah non, fallait pas ». Et puis, par contre, si tu lui dis merci, tu reconnais le geste, tu l'apprécies, sans en étaler plein de confiture sur ta tartine. Voilà.
C'est ça.
C'est juste ça. Mais encore une fois, je me suis conditionné là-dessus. Puis je pense qu'on peut tous le faire.
Mais justement, je pense que ça peut être un des éléments qui peut aider dans le syndrome de l'imposteur. Au lieu, quand t'as quelqu'un qui fait quelque chose pour toi, de penser à tout ce que t'as fait mal et dire que non, ça va pas, je suis moi-même un imposteur, alors que c'est pas le cas, justement, peut-être conditionner des réponses. Parce que moi...
Ça se prépare dans la tête, comme tu disais.
Ouais. Je suis une professionnelle, n'importe qui pourra vous le dire, à dire désolé.
Oui, moi aussi.
Je dis désolé pour tout.
On se ressemble un peu, ma chérie.
Il y a quelqu'un qui va me dire « Oh là là, j'ai eu la grippe la semaine dernière. Oh, désolé. » Alors oui, je suis désolée pour elle, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai dit ça à une cliente la semaine dernière. Et elle m'a regardé, elle fait « Mais c'est pas ta faute, hein. » Je sais, mais même désolée, je sais que c'est pas cool et tout. Elle fait « Mais arrête de dire désolée. » Et là, on a ri parce que c'est vrai que c'est débile à dire. Mais je sais pas, c'est devenu une habitude. Ouais. Je m'étais déjà conditionnée il y a quelques temps à essayer de plus dire désolé et à dire merci à la place ou à essayer de trouver autre chose. Ouais. Je suis toujours en train de travailler hardcore là-dessus. Aussi, j'ai cette impression, et ça fait partie du syndrome de l'imposteur, que tout ce qui se passe mal à côté de moi, c'est un peu ma faute.
Oui, ou tu dois compatir. Ouais. Avoir de la compassion avec les gens.
Mais j'ai de la compassion.
Non, mais
tu peux leur dire, je m'en fous de ta grippe. Ne m'approche surtout pas. Peut avoir des éléments et ça peut faire partie de ça.
Ah, mais bien sûr, ouais, oui. C'est en effet, en tout cas, quand je l'ai étudié, je me suis rendu compte qu'il y a des choses qui ressemblaient un petit peu.
Il y a aussi un autre point, un autre élément qui pouvait aider là-dedans, c'est le fait de communiquer ses ressentis. Certes, il y en a qui vont communiquer avec des mots, mais c'est ça que j'ai bien aimé dans ce que tu as dit. Il y en a qui vont peut-être le communiquer à travers, en faisant de la musique, ou à travers le sport.
Il m'a fallu, moi, oui.
Ou à travers le dessin, mais c'est le fait qu'il faut extérioriser la chose pour qu'il y ait au moins une personne de ton entourage qui comprenne ce qui se passe là-dedans.
Ouais. Quand je faisais de la musique ou quand je faisais du sport, je m'attachais à le faire le mieux que je pouvais. Alors, j'ai jamais été ni Zidane au foot, ni Platini. Par contre, je m'appliquais à le faire le mieux que je pouvais. Alors, c'était pas du perfectionnisme parce que je crois pas avoir ce côté-là. Par contre, quand je sais que je peux faire un peu mieux, je ne comprends pas pourquoi je peux pas faire mieux.
C'est peut-être bête, mais là, quand tu parlais, j'ai eu une image qui était assez claire et qui m'est venue à un moment donné dans ma vie. C'est bête. C'est très, très bête comme image. Mais c'est vrai que là, ça a un lien, je pense, avec le syndrome d'imposteur. Peut-être que vous le verrez, peut-être que vous ne le verrez pas. Mais j'ai l'impression qu'avec tout ce qu'on a autour de nous maintenant, on est un peu conditionné dans nos cerveaux à soit être l'acteur, l'actrice principale d'un film, d'une série, soit le méchant.
Ouais,
tu vois, c'était soit le gentil, soit le méchant. Ouais. Mais en fait, on oublie que dans un film, il y a le second rôle. Ouais. Il y a celui qui est figurant.
Ouais.
Il y a l'acteur qu'on va couper au montage. Il y a tous ces gens-là qui font quelque chose. Et c'est vrai que maintenant, on peut se dire, en fait, il faut que je sois tout le temps le meilleur.
Ouais.
Mais il faut que je sois le meilleur par rapport à tous les autres.
Ouais, exact.
Et pas le meilleur par rapport à toi-même. C'est un peu bizarre comme image. Comme tableau.
Mais
c'est comme un tableau, tu as besoin de chaque coup de pinceau. Mmh. Et il y a des fois, tu vas donner le mieux que tu peux, comme quelqu'un qui va passer un entretien d'embauche et qui va se dire « Ah là là, j'ai tout donné, j'ai donné le meilleur de moi-même » et qui à la fin sera peut-être pas pris. Au lieu de dire « Oh punaise, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Alors certes, tu dois te remettre en question en disant « La prochaine fois, je ferai mieux. » Mais quand je suis partie de chez mes parents pendant un an et demi, pas parce que j'ai fugué, mais parce que je suis allée faire une mission volontaire religieuse aux États-Unis. Là-bas, toutes les 6 semaines, tu changes de coloc, tu changes de personne et tu dois avoir des objectifs pour toi-même, machin. Et l'objectif que j'avais à chaque fois, c'était faire de mon mieux. Et j'avais une collègue qui, elle, était genre à fond le sport, le crossfit, let's go, let's go, let's go. Bref, l'américaine typique qui a fait du cheerleading, tu vois, c'est bref.
Ah bah oui. Ouais.
Je l'adore, vraiment, je l'adore. Et elle a vu mon objectif, elle était là, mais c'est nul. Elle fait, mais tu vas comparer à quoi? L'objectif, c'est quoi? Le chiffre, c'est quoi? Et c'est vrai qu'il n'y a pas de chiffre, mais c'est juste par rapport à moi-même. Est-ce que je peux dormir le soir en me disant qu'aujourd'hui, j'ai fait le mieux que je pouvais? Une des choses qui m'aident avec le syndrome de l'imposteur, moi, c'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui j'ai fait le mieux que je pouvais? Oui. Et s'il y a des gens qui sont pas contents ou il y a des gens qui peuvent penser que j'aurais pu faire mieux et qu'il y aurait quelqu'un d'autre sur cette terre qui peut faire mieux, moi dans tous les cas, j'ai fait le mieux que je pouvais pour moi. J'ai fait avec toute l'énergie que je pouvais, avec toute la volonté que je pouvais. Ça c'est ma limite. Le fait que je fasse mieux, c'est ma limite.
Ouais, exactement.
Donc, ça c'est le truc moi qui m'aide.
Ouais, c'est juste.
À dealer avec ça.
Ouais, c'est bien.
Pour éviter que je me compare avec d'autres gens. Parce que dans tous les cas, j'ai fait ce que je pouvais.
Mais en tout cas, ça veut dire faire des efforts.
Oui.
Peut-être que j'aurais l'impression que le syndrome de l'imposteur se développe encore plus aujourd'hui. Peut-être parce qu'on est moins enclin à faire des efforts, je vais le dire comme ça. On décide peut-être que, non, voyant tout ce que je vois sur les réseaux, moi, je ferais moins bien, donc je ne vais même pas essayer.
Ouais.
Ça revient à la créativité, encore une fois. Hein, qu'est-ce que je veux faire? Et puis, pourquoi est-ce que je le fais? Et voilà. Et la comparaison là-dedans, elle n'est pas forcément super utile.
Non, elle est un peu violente, mais je comprends tout à fait ton point. Mm-hmm. Et je suis d'accord aussi.
Je me rends compte. Enfin, je me rends compte.
Le fait de même pas. Alors, parce qu'il y a une certaine peur aussi. oui, qu'avec le syndrome de l'imposteur. Ouais. Mais il y a aussi cet élan où tu dis, bon, voilà.
Peur de l'échec, j'ai essayé de raisonner avec moi-même sur la peur, et en me disant, bah, en fin de compte, si j'essaie, qu'est-ce qui va m'arriver ? Ça, on peut le raisonner, mais ça demande des efforts qu'on n'est que seul à payer, en fait. Pas attendre les félicitations et les applaudissements. Comme peut-être que c'est ça aussi, le fait qu'on se sente imposteur à un moment donné, c'est qu'on aurait envie que tout le monde nous applaudisse pour tout ce qu'on fait de bien. Et en fait, ce n'est pas le cas.
Ouais.
j'ai souvent remarqué que ce n'est pas du tout le cas. Et
non,
même
mais
c'est l'inverse.
C'est un autre point, donc, mais c'est vrai.
Peut-être à voir. Ouais.
Je suis tout à fait d'accord avec
mais
ça.
Mais ça fait partie des réflexions que je me suis posées.
Ouais, mais c'est une bonne réflexion.
Grâce à ton sujet.
Ah, voilà. Ce n'est pas mon sujet. C'est
pas
moi
sujet
qui
que tu m'as proposé.
Délire, mais
non.
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui voudront de l'argent de ma part, mais...
Non, j'ai trouvé très chouette. Merci beaucoup pour ce petit voyage en étude de réflexion. C'était
merci à toi. Merci à vous. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du sujet. Quelles sont vos pensées par rapport à ça? S'il y a peut-être des choses que vous avez mieux comprises, pas comprises. Bref, on est là. On est, comme on a dit, pas professionnels du tout. Donc... on discute, on papote comme on aurait discuté sur notre canapé tous les deux par rapport à ça. D'ailleurs, quand tu parlais, il y a une citation que j'avais dans ma chambre, dans cette chambre d'ailleurs où on enregistre le podcast actuellement, qui était « Tout ce que tu veux est de l'autre côté de la peur ».
Ah, intéressant.
Et ça, c'est quelque chose, j'ai dû me rappeler ça pendant un petit moment et encore aujourd'hui maintenant. Vous n'êtes pas tout seul à vivre ça,
non.
On est là pour encourager. Soyez quelqu'un qui encourage, entourez-vous de gens qui encouragent et faites rentrer dans votre esprit des pensées positives.
Ouais, et il me semble que plus on encourage les autres, et plus les pensées positives viennent.
Oui, d'ailleurs ça c'était un point, je l'ai pas noté parce que j'étais dans le bus quand j'écoutais ça, mais un autre TED Talk que j'avais écouté, il disait que si tu veux essayer d'éliminer ce syndrome de l'imposteur, la meilleure façon de le faire c'est d'aider quelqu'un.
Ouais, j'en suis sûr.
Parce que quand t'aides quelqu'un, tu te rends compte à quel point toi tu voudrais être aidé, et donc tu t'aides toi-même en faisant ça.
Ouais, et en faisant du bien, on s'amène du bien à l'âme.
Ouais,
voilà.
Vraiment. Écoutez... On vous lance toutes ces petites invitations qu'on se lance à nous-mêmes,
à nous, ouais,
clairement. En tout cas, on espère que vous avez passé une belle semaine.
Ouais,
vive les vacances, ou pas, wouh. On vous souhaite une très belle semaine et on se dit à la semaine prochaine dans un tout nouvel épisode de
La Good News.
Bye.
Ciao.